Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie. Quelle journée de championnat on a eu précédemment pour la 32e journée. Record de buts, on n'avait plus vu ça depuis 76, il me semble. Incroyable, des matchs sur lesquels on va revenir rapidement, bien sûr, puisque on est là quand même pour parler du direct et de l'actualité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, un homme qui a certes aimé le match de Rennes, mais je pense qu'il a dû quand même être peiné de voir son équipe perdre. Maxime, comment tu vas ?
Salut Desti, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah oui, c'est vrai que c'était un beau match de football, on va dire beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Mais voilà, on apprécie le football avant tout. Hein. Malgré le fait d'être supporter, on va saluer la bonne prestation des Brestois.
Attends, c'était quand même un match assez fou, quoi. Enfin, c'est pas souvent qu'on voit un 5-4 comme ça, hein.
Surtout avec les retournements de situation, franchement, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Rennes qui mène 2-0, qui se fait revenir à 2-1 très rapidement quand même. Ça va jusqu'à la mi-temps comme ça. Retour à 2-2, puis 3-2, puis 4-2. Après, on se dit, bon, bah, Brest est passé devant, c'est bon, ils confortent leur deuxième place, ils sont sur une saison exceptionnelle. Puis retour à 4-3, 4-4, et là, on se dit, bon, bah, finalement, c'est quand même un match exceptionnel. On est plus proche du 5-4 de Rennes et finalement 5-4 de Brestois. Et franchement, après, c'est ce qu'on aime dans le foot aussi. C'est vrai que des retournements de situation dans ce sens-là, je pense que les supporters rennais n'iront pas dans mon sens. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la beauté du football, le fait d'avoir des retournements de situation, des buts, malgré beaucoup d'erreurs défensives de part et d'autre. Parce que c'est vrai que quand on entend de buts, c'est qu'il y a des erreurs.
Ah, c'est qu'il y a des erreurs, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs, et justement, on va en parler de cette équipe rennaise, parce que c'est le premier match qu'on va aborder aujourd'hui, donc le FC Metz face au Stade Rennais. Donc voilà, pour vous refaire un petit topo du match aller, Rennes s'était quand même imposé 5-1 au match aller, c'était en tout début de saison au mois d'août, hein. Bon, de manière générale, Rennes a plutôt dominé cette équipe messine, hein, même si voilà, l'année dernière, elle s'impose face à cette équipe 6-1. Quand j'ai regardé les scores, ils ont mis quand même des gros scores à Metz, Rennes. Hein. C'est une équipe qui réussit bien.
C'est vrai qu'ils mettent beaucoup de buts à Metz.
Ah, c'est une équipe qui réussit bien au noir et rouge. Hein. Bon, tu me diras. Tant mieux pour eux. Donc, comme on vous l'a dit, un Rennes qui s'est incliné à domicile face à Brest, dans un match incroyable qui a fini sur 4-5 pour Brest. De son côté, Metz s'est incliné aussi à domicile face à Lille. Alors, certes, elle a fait une belle prestation, mais l'équipe lilloise était trop forte, hein, on peut le dire. Aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui se bat pour des places en Ligue des Champions, même si Metz a fait des très belles performances récemment face au Havre ou Lens. Là, la marche était un peu trop haute. En tout cas, Metz est actuellement 16e du championnat avec 29 points. Autant de points que Le Havre qui est 15e. 3 points d'avance sur Lorient qui est 17e. De son côté, Rennes, qui a fait une très mauvaise opération lors de cette 31e journée, qui est actuellement 9e du championnat avec 42 points, qui a 2 points de retard sur Lyon et Marseille, qui sont 7 et 8e avec 44 points, et 4 points de retard sur Lens, qui a 46 points, et 2 petits points d'avance sur Toulouse et Reims, qui sont 10e et 11e. Alors, je vais commencer avec cette équipe rennaise, Maxime, toi qui la connais bien. Moi, j'ai envie de savoir quel est l'état d'esprit de cette équipe. Comment les joueurs sont, parce que c'est quand même un sacré crochet dans la mâchoire qu'ils ont pris face à cette équipe brestoise. Hein, tu l'as dit, hein, ça allait dans tous les sens. Pendant un moment, on a cru qu'ils allaient gagner. À un autre moment, on a cru qu'ils allaient perdre. D'autant plus que ils sont un peu en dents de scie sur cette fin de saison. Rennes, ils ont gagné certes contre Nantes 3-0, mais ils perdent contre Toulouse, ils ont perdu contre Monaco, ils ont perdu contre Strasbourg avant, ils ont battu Marseille lors de la 26e journée. Mais là, en cette fin de saison, quel est l'état d'esprit du côté rennais ?
Il y a eu beaucoup d'erreurs, comme tu l'as dit. Je pense que j'ai pas eu de joueur rennais là suite à la défaite contre Brest, mais à mon avis, ils savent que les chances d'avoir une place européenne sont vraiment moindres. Il y a 3 matchs, c'est simple, faut 3 victoires, sinon ça sera quasiment impossible. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois déjà, on avait déjà parlé de Rennes, il me semble, ça doit faire 2-3 semaines.
C'est ça.
Et c'est ce que je disais, c'est que les joueurs jouaient plutôt de manière individuelle, il va y avoir des départs cet été. On sait que Désiré Doué est très courtisé et devrait partir. Il y a pas mal de joueurs qui souhaitent aller voir ailleurs aussi parce que c'est pas une saison prolifique et c'est une saison avec des joueurs de qualité mais qui ne montrent pas réellement toute leur qualité. Beaucoup de faiblesses défensives, les recrues qui n'ont pas forcément apporté. Donc il y a pas mal de joueurs qui vont vouloir aller voir ailleurs. Donc je pense qu'il y en a certains qui ont une seule hâte, c'est de terminer cette saison et de pouvoir essayer de voir où rebondir derrière. Donc je pense pas que le moral soit au plus haut, mais ceux qui seront, j'espère, alignés prochainement vont quand même, je pense, essayer de tout faire pour aller chercher une place européenne, parce que tout le monde ne va pas pouvoir partir cet été quand même.
Est-ce que ce départ de Pep Genesio, il a fait quand même un peu plus mal qu'on ne le pense ? Ou c'est une théorie fumeuse ?
Je trouve que c'est assez facile déjà de dire « bon, bah, on change le coach, ça va aller mieux bah, ». C'est pas forcément ça qui va changer, ça met un petit peu de réveil, on va dire, dans certains joueurs qui ne s'entendent pas avec le coach, potentiellement, c'est sûr. Mais Bruno Genesio avait fait un travail quand même formidable avec Rennes.
C'est vrai.
Est-ce que ça ne passait pas ? Je ne suis pas sûr que ça ne passait pas. Peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle, mais c'était sûr que Julien Stéphan n'allait pas faire de miracle. Oui, il y a souvent la réussite des premiers matchs quand le nouveau coach arrive, mais ce n'est pas pour ça que ça va durer sur le long terme. Il y a un bel effectif à Rennes. Il y a juste peut-être des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste, ou alors des joueurs qui ne sont pas... dans le même état d'esprit ou la même tactique. Je pense notamment à des joueurs qui ont été recrutés l'été dernier. C'était les meilleurs joueurs de leur club. Quand on prend Blas, quand on prend Lefebvre, quand même on prend Cédou, c'est vrai que c'était, entre guillemets, les joueurs qui ressortaient de leur club. Mais est-ce qu'ils vont jouer de la même manière avec leur ancien club qu'avec le Stade Rennais ? Bah, pas forcément, parce que c'est pas du tout le même style de jeu. Ludovic Blas n'est pas du tout aussi indépendant offensivement qu'il était à Nantes. Pareil pour Enzo Lefebvre quand il était à Lorient. C'est pas le même style de jeu, c'est pas la même liberté, c'est pas le même collectif. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être plus de rigueur, peut-être plus d'esprit collectif, et ça marche pas forcément tout le temps. Donc oui, il y a certains échecs, il n'y a pas que des échecs heureusement, parce que c'est vrai que ça serait un peu compliqué autrement. Mais je pense qu'il y aura des ajustements à faire et qu'il faudra cibler de nouveaux profils ou essayer de voir un nouveau dispositif ou une nouvelle stratégie, que ce soit offensive, défensive, parce que c'est vrai qu'il y a du ménage à faire et des choses à changer de part et d'autre.
Au final, on peut même penser que c'est le bon moment pour Metz d'affronter cette équipe rennaise, parce que on sait que Metz, ils ont quand même un calendrier, là les 3 derniers matchs qui sont hyper compliqués. Ils ont quand même joué contre Lille, ils ont joué contre Le Havre, ils ont joué contre Lens, Brest, Monaco, Reims, enfin très dur. Ils vont enchaîner là avec Rennes, Strasbourg et le finir avec le PSG. Donc une fin de championnat compliquée, mais au final, est-ce que c'est pas cette chance aussi pour Metz d'affronter cette équipe rennaise à ce moment-là ? Parce que moi personnellement, Metz, j'ai aimé leur dernier match. Hein. Je l'avais dit hein, depuis le match face à Monaco, je trouve qu'il y a vraiment un réveil qui s'est passé chez eux, hein, même s'ils n'ont pas pu le concrétiser tout de suite contre Brest, même s'ils sont quand même revenus, ils sont revenus à 4-3. Mais je trouvais vraiment qu'il y a quelque chose qui s'était passé cette équipe messine, avec notamment un Mikotadze bah, qui porte l'équipe. Mais pas que, il y a Van der Kerkhoff aussi qui fait quand même des très belles prestations, enfin en tout cas qui fait des des belles prestations, et notamment Diallo aussi, et même une défense beaucoup plus solide. Est-ce que c'est pas la chance, je repose ma question, est-ce que Metz, c'est pas le bon moment pour prendre cette équipe rennaise au final?
J'ai envie de te dire oui et non. Pourquoi oui? Parce que c'est vrai que ça va pas forcément dans les têtes de Rennes. Et pourquoi non? Parce que faut un réveil rennais. Donc ce réveil passera par des matchs à gagner obligatoirement s'ils veulent rêver un minimum d'Europe, parce que déjà leur destin n'est plus entre leurs mains. Donc avant de regarder ce que font les autres, faut déjà qu'ils gagnent les matchs, parce que dans tous les cas, sinon ça passera pas. Après on le voit, hein, c'est vrai que Metz a eu un très bon réveil, mais comme pas mal d'équipes, c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes dans le bas du tableau, que ça soit Clermont, que ça soit Metz, tu l'as dit, ou même Nantes, c'est vrai qu'il y a certaines équipes qui se réveillent pour essayer de sortir la tête de l'eau. Donc Metz n'a pas trop le choix non plus de sortir la tête de l'eau s'ils veulent espérer se maintenir, parce que c'est vrai que là ils sont à égalité de points avec Le Havre, mais c'est assez compliqué, parce que c'est vrai que s'ils veulent espérer se maintenir, il va falloir gagner des matchs. Mais gagner des matchs, ça va passer par le fait de pouvoir battre certaines équipes. Oui, ils vont jouer Rennes, ça va être compliqué parce que Rennes a vraiment besoin de faire quelque chose. Il leur reste Strasbourg a un calendrier avec pas mal de relégables à jouer. Ils vont jouer, je crois qu'il leur reste Strasbourg, il doit leur rester Metz. Il leur reste aussi de mémoire Le Havre et Lyon. Donc c'est vrai qu'il y a deux équipes qui jouent vraiment leur maintien, et ils ont une équipe qui va jouer l'Europe. Donc c'est vrai qu'eux n'ont pas forcément grand-chose à jouer, et ils vont jouer contre des équipes qui ont tout à jouer. Donc c'est vrai que Metz va pouvoir faire des différences, j'espère pour eux, surtout contre Strasbourg. Et ensuite contre le PSG, ça va dépendre, on va dire, d'une seule et unique chose, ça va dépendre de la Ligue des Champions, parce que c'est vrai que si le PSG va jusqu'au bout en Ligue des Champions, ils sont déjà champions, donc ils pourront peut-être se permettre de faire une petite impasse, et potentiellement Metz pourra peut-être aller chercher un point, c'est aussi possible. On a vu Le Havre le faire le week-end dernier, donc pour Rennes, c'est un sursaut, ils en ont besoin. Pour Metz, ils ont besoin aussi d'aller essayer de se sauver, mais ça va pas être simple, je pense.
Ok. Toi, t'imagines un sursaut rennais, puisque c'est vrai que si on regarde que les stats en soi, si on regarde ce que Rennes a fait en termes de championnat ou même face aux différentes équipes, hein, Rennes a beaucoup de mal face aux équipes du top 10. Ça, c'est quelque chose sur lequel qui est aujourd'hui incontestable. Si on reprend les derniers résultats de Rennes,
aux dernières années d'ailleurs. Parce que c'est vrai que les dernières années, excuse-moi de te couper, Dusty, les dernières années, Rennes a l'habitude de faire des gros résultats contre les gros et perdre beaucoup contre les petits.
Et ben là, c'est le contraire, parce que les seuls gros qui battent, c'est Lyon qui battent à l'extérieur, ils battent Marseille chez eux, ils battent Nice aussi à domicile 2-0, mais sinon, à part ça, c'est que des matchs nuls ou des défaites. Par contre, c'est vrai que face aux petits, ils perdent. Ils perdent une fois contre Toulouse, ils perdent 2-0 face à Strasbourg, Lorient, aller-retour, défaite, sur le même score en plus, 2-1 et 1-2. Après le reste, sinon, majoritairement, c'est des victoires et 4 matchs nuls. Donc, au moins, ils ont cette décence, on va dire, de battre les équipes qui sont plus faibles qu'elles.
Sachant comparé aux années d'avant, mais c'est vrai que ça suffit pas si tu veux aller chercher une très bonne place et notamment essayer de jouer l'Europe.
C'est ça, mais c'est surtout dans le contexte actuel de l'équipe rennaise. Quand on prend les derniers matchs, tu vois que Toulouse, qui est derrière Rennes, ils ont perdu. Strasbourg, qui est derrière, ils ont perdu.
Lorient. D'ailleurs, en parlant de Toulouse, tu les vois toujours en Europe ou
plus? Toulouse en Europe. Toulouse en Europe. Ils sont à 4 points. Ils sont à 4 points de la 7e place, il me semble. C'est possible. C'est toujours possible.
Après, mathématiquement, c'est possible. j'ai du mal à voir et Lyon qui est en super forme et Marseille qui est une équipe quand même de qualité et Lens, j'ai du mal à tous les voir faillir sur ces trois derniers matchs.
Bah déjà bon on en reviendra mais on reviendra dessus mais déjà t'as Reims qui a complètement lâché d'ailleurs on en reparlera au moment de parler du match de Reims mais assez incroyable ce que Will Steele a fait bref Reims qui a complètement lâché Marseille moi je trouve que c'est une équipe qui est cramée qui s'appuie sur 2-3 individualités mais en soi elle est cramée. Lyon, je pense que c'est très compliqué à aller chercher parce qu'ils sont en forme. Rennes, c'est au petit bonheur la chance. Sérieusement, je ne sais pas avec Rennes. Je sais pas
c'est, en dents de scie, c'est en dents de scie.
C'est ça.
Un match ça va pas. Les feux de l'amour.
Et Lens, ça va dépendre du calendrier. Même si je pense que Lens, c'est trop compliqué à aller chercher. Donc, Toulouse, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi pas. Tu vois.
Après, tu vois, il y a un Rennes-Lens qui arrive juste après.
Ouais.
Et ce Rennes-Lens, c'est clairement un match à 6 points.
Ah oui.
Donc, tu vois, pour Toulouse, que ça soit ce Rennes-Lens, ça va être compliqué parce que dans tous les cas, ça veut dire qu'il y en a un qui sera mieux qu'eux.
Ouais.
Qui est match nul, qui est une victoire de l'un ou l'autre. Entre guillemets, il y a des points qui seront pris par l'un ou l'autre, ou par les deux.
Mais du coup, pour revenir sur ce match entre Metz et le Stade Rennais, et justement, en parlant de ce calendrier qui est quand même chaud, qui attend les Rennais, hein, parce qu'au final, là, tu n'as plus le droit à l'erreur, tu as Lens, tu as Reims. Alors Reims, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils sont, mais je pense qu'ils doivent être au fond du trou, là, les pauvres. Mais t'as quand même.
Allez. Je vais là-bas ce week-end, donc je te dirai comment ils sont.
Ah ouais, parce que les pauvres, ce qui s'est passé là en deuxième partie de saison, très dur, je trouve. Donc t'as quand même voilà, deux gros matchs qui les attendent, mais c'est vraiment le match où il ne faut pas faire d'erreur pour Rennes. Mais en même temps, je les vois tellement parce que Rennes à l'extérieur. Cette saison, c'est 4 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Donc, c'est pas exceptionnel. Hein.
C'est une équipe moyenne qui est dans le milieu de tableau. Donc, c'est mérité. C'est une équipe moyenne. Donc, comme c'est une équipe moyenne, ils ont des résultats moyens.
Ouais. Bon, et toi, en termes de jeu déjà, quel type de confrontation tu t'attends pour ce match? Est-ce que tu penses qu'on va être sur la lignée de cette 31e journée ou ça va être quand même un match ouvert? Parce que mine de rien, c'est deux équipes qui il faut qu'ils aillent chercher les trois points.
Je sais pas si on verra autant de buts que lors du week-end dernier, je l'espère, ça serait bien. Mais je m'attends à un match assez ouvert, oui, parce que Metz est à domicile, donc Metz devra aller chercher une victoire, parce qu'actuellement, ils sont quand même barragistes, donc ils vont devoir essayer de faire quelque chose. Et on aura quand même Rennes, qui voudra se racheter de cette défaite, face à Brest. Donc dans tous les cas, il n'y aura entre guillemets pas le choix pour les deux. Ce qui va donner, je pense, un match assez sympathique. Alors, avec de la qualité, je sais pas. Mais un match avec, en tout cas, avec pas mal de jeux. On y verra aussi peut-être un peu plus clair en fonction du match entre Lens et Lorient qui va débuter. Parce que c'est vrai que le match entre Lens et Lorient va donner aussi quelques détails. Si Lorient gagne, ils reviennent à égalité avec Metz. Donc Metz va vraiment devoir faire quelque chose. Si Lens gagne, bah, ils prennent vraiment leur distance avec Rennes. Et donc là, dans ce cas-là, ils disent vraiment adieu à la sixième place et ils vont espérer avoir la septième place. Donc c'est vrai qu'il reste trois journées. L'avant-avant-dernière, l'avantage qu'elle a pour certaines équipes, c'est que tous les matchs ne sont pas en même temps. Donc il y en a qui vont voir un petit peu leur avenir un peu avant les autres. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de jeux, je l'espère. Les deux équipes vont essayer d'aller chercher la victoire. Donc, je vois des buts lors de ce match.
Ok, et du coup, toi, tu vois quel compo pour les deux équipes, que ce soit pour Rennes ou Metz, rapidement.
Eh ben, on va commencer par ceux qui sont à domicile, la composition Messine. Et bon, on voit que le dispositif ne change pas sur les trois derniers matchs. Hein, leur 4-5-1 classique avec Oukidja dans les buts, avec une défense Traoré Sané, les latéraux Colin Hudol, un milieu de terrain densifié entre Jean-Jacques, Ndoram et Atta, sur les côtés Diallo et Van de Kerkhoff. Et pour essayer d'aller planter un petit but comme il a l'habitude de le faire, Miko Tadze en pointe. Hein, je vois une compo, on va dire, assez classique pour Metz, pour justement rester dans cette stratégie actuelle et cette belle philosophie qui nous montre actuellement. Hein. Et concernant l'équipe rennaise, à mon avis, il va y avoir un petit peu de changement comparé au match de Brest, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de largesse défensive. Donc je pense que cette fois-ci, Bélossian va sortir et il va mettre Truffert d'entrée.
Ok.
Je verrais une défense centrale avec Théat et Wu, parce qu'Omari avait pas fait un très bon match. Je le vois quand même laisser Guéladoué, qui est pas forcément trop mauvais en termes de latéral droit. Mais sinon, ouais, je verrais Truffert, Théat et Wu. Et au milieu de terrain, entre Matuziwa et Santa Maria, je pense qu'il y aura, il y en aura un des deux qui ne va pas jouer. Donc je verrais un milieu de terrain avec Santa Maria, Lefay, okay. Avec sur les côtés Bourigeaud toujours là, qui ne bouge pas entre guillemets. Et je sais pas s'il va vouloir faire confiance à nouveau à Désiré Doué. Allez, je vais essayer de me mouiller un petit peu quand même. Je vais dire Santa Maria, Bourigeaud, Guiri côté gauche, et devant Kalimuendo, Terrier. Et si jamais ça manque un peu de punch, il va pouvoir faire rentrer Désiré Doué assez rapidement. Et Ryder Blas, il y a quand même du monde sur le banc rennais, hein, on va pas se mentir. Quand tu peux faire rentrer et Blas, et Doué, et Ryder, c'est quand même pas trop mal. Donc je vois quand même 3-4 changements par rapport à la composition contre Brest, histoire de montrer justement un peu un renouveau.
Mais pourtant, enfin, je suis plutôt d'accord avec toi sur les compos, mais Matuziwa, il a fait un bon match quand même.
Il a fait un bon match, mais c'est vrai que je pense que Stéphane va vraiment s'appuyer sur ce qui avait marché au début quand il est arrivé, avec des joueurs qui étaient déjà là depuis le début de l'année. Matuziwa est arrivé à l'intersaison. C'est pour ça que je laisse quand même Guéladoué et que je mets pas Seydou. Je le vois rester sur des bases en mettant Seydou et Matuziwa sur le banc. Pour essayer d'avoir vraiment des automatismes qui sont créés depuis le début de saison. Donc, je vois comme ça. Après, il est possible qu'ils mettent Matuziwa à la place de Santa Maria, mais sur ce match-là, je ne verrai pas les deux ensemble.
Ouais, tu penses qu'il va, voilà, il va retourner un peu aux sources et faire confiance à son équipe de départ, l'équipe de l'électrochoc, on va dire.
À mettre au moins un joueur sur les deux plus offensif, le fait. Parce que c'est vrai que Matuziwa, Santa Maria, on est quand même sur deux profils milieu défensif. Là, je le vois mettre un style de jeu un peu plus offensif pour vraiment essayer d'aller chercher la victoire.
Ok. Bah, très bien, on va passer au score. Les pronos du match, tu vois quoi?
Alors, je dirais un 3 buts à 1 pour Rennes. Je vois des buts. Pour Metz, je dirais un but de Miko Tadze qui est vraiment en forme. Et pour Rennes, je dirais un but de Guiri, un but de Terrier et un but de Doué qui va rentrer et qui va creuser l'écart.
Ok. J'avoue, pas facile ce match quand même à pronostiquer parce que... Moi, je vois quand même une équipe rennaise. Et puis, avec ce que tu dis, quand même, ils ont l'air assez sonnés. Tu sens qu'il y a des joueurs qui ne sont pas trop impliqués, qui ont déjà la tête ailleurs. Et en face, t'as une équipe Messine qui est en mode en ordre de bataille et qui veut sauver sa peau, mais surtout qui sent qu'elle peut sauver sa peau, qui a une vraie possibilité.
Totalement.
Alors, je suis désolé de te dire ça, mais moi, je vois une victoire de Metz.
Ne sois pas désolé, hein. Écoute.
Moi, je vois 2-1 pour Metz.
C'est Rennais, mais j'admets qu'ils font une saison pourrie, pour être très clair. Donc, ils méritent la saison qu'ils font.
Parce que, et puis, un point aussi que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives. Je crois qu'il y a un but contre son camp, c'était qui ? C'est Omari ? Non, qui met un but contre son camp ? C'est
Omari qui met un but contre son
camp. C'est Omari. Et sérieusement, ce but contre son camp, j'ai trouvé du nonchalance. Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il était là, la balle lui est tombée dans les pieds. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a réagi assez bizarrement. Sur ce,
et combien ton score avec la victoire de Metz ?
Moi, je dirais 2-1 pour Metz.
Avec qui comme but ? Un contre son camp encore hein ?
Alors, je vois déjà, je sais pas pourquoi je pense qu'il va y avoir un pénalty pour Metz. Ça c'est sûr, avec but de Mikotadze. Peut-être pas un doublé de Mikotadze. Peut-être un petit but de Diallo, parce qu'il est pas si mal aussi. Il fait une fin de saison qui est pas trop mal aussi, Diallo. Donc, peut-être un petit but sauveur de Diallo. Et côté Rennais, bah, je vais. Côté Rennais, je vais dire Bourigeau. Genre, Rennes perd 2-0, un Bourigeau énervé qui va marquer pour réveiller son équipe, mais trop tard.
Verdict samedi soir. Hein.
Ouais. Après, dis-toi qu'en prono, je suis pas très bon. Souvent, je tape à côté. Donc, peut-être victoire Rennes au final.
Bah, en fait, c'est ça. C'est que, écoutez, les internautes, Desti a dit victoire de Metz. Vendez votre maison, mettez tout sur la victoire de Rennes.
C'est pour ça que t'es serein en vrai.
Tu peux que être serein. J'aurais été justement pas serein si t'avais dit victoire de Rennes.
Ok. Du coup, on va passer au match suivant. Un gros match de ce week-end quand même, parce que on rappelle à nos auditeurs que tous les matchs ne se jouent pas ce week-end. Il y a des matchs qui sont reportés, notamment le match du PSG de l'Olympique de Marseille qui se joue le 15 mai, si je me trompe pas. Ouais, c'est le 15
après
mai.
La,
ouais,
donc... Après la 33e journée d'ailleurs.
C'est ça, ouais. Donc le PSG qui affrontera Nice et Marseille qui affrontera le Stade de Reims. Donc petite journée, donc sur cette, enfin petite journée, il n'y a que deux matchs en moins, mais sur cette journée, on a quand même un très gros match qui se jouera le lundi, parce que dimanche, pas de foot en France pour respecter le drame de Furiani. Donc qui se jouera le lundi 6 mai, Lille versus Lyon. Pareil, on se remet dans le contexte. Hein, donc Lyon qui s'était incliné à domicile face à Lille 2-0, c'était au mois fin du mois de novembre. Depuis Lyon a battu Lille en Coupe de France. Hein, ouais, qu'ils ont battu 2-1 en Coupe de France. Donc en soi, c'est plutôt serré entre les deux équipes. Ça va un peu dans tous les sens, même si c'est vrai que Lille a peut-être un peu l'avantage en termes de victoire ces dernières années. Mais voilà, ça se joue pas à grand-chose. Sur les derniers matchs, bah voilà, Lyon s'est imposé face à Monaco 3-2. Hein. On a vraiment un Lyon en ce moment qui est un peu inarrêtable, hein, qui fait une saison 2024. Je crois que c'est la co-meilleure équipe de 2024 avec feu Brest, mais à revérifier. Donc, je pense que Lyon a dû passer devant en 2024. Donc, Lyon qui s'est imposé face à Monaco 3-2 et Lyon qui est actuellement 8e du championnat avec 44 points. Donc, autant de points que l'Olympique de Marseille qui en a aussi 44. Et de son côté, Lille, qui fait aussi une très belle fin de saison, qui s'est imposé contre Metz, justement, on en parlait 2-1 à l'extérieur. Lille qui continue hein, dans cette course à la Ligue des Champions, donc qui est quatrième avec 55 points, donc un point de retard sur Brest, 4 points sur Nice, qui est cinquième. Donc ça, je pense que c'est quasiment fait. Là, ça va vraiment jouer entre Monaco, Brest et Lille. Hein. Il y a 3 points d'écart entre les trois équipes. Je vais te plonger direct dans le bain, mon ami Maxime. Est-ce que tu penses que cette équipe lyonnaise, donc une équipe qui est beaucoup à réaction, je trouve, qui arrive à voilà, profiter des défaillances des autres équipes, et on le voit, c'est souvent les équipes en face qui font des erreurs, et Lyon en profite très bien. Hein. Est-ce que tu penses que cette équipe à réaction peut être suffisante face à cette équipe lilloise qui est quand même très solide et surtout à domicile?
Ben, c'est vrai que Lyon, faut vraiment saluer leur deuxième partie de saison, parce que c'est vrai que beaucoup les voyaient morts.
Ouais, moi le premier.
Voilà, faut pas enterrer. Le Lyon n'est pas mort ce soir. Petite référence. Mais c'est vrai que je trouve que Lyon a une très belle attaque, a une très belle équipe. Ils ont quand même du mal défensivement. Ils ont quand même pris beaucoup de buts. Ils prennent 2 buts face à Monaco. Ils prennent 4 buts contre le PSG. Ils prennent 3 buts contre Brest. Ils en prennent un contre Nantes quand même. Ils en ont pris un contre Reims, ils en prennent 2 contre Toulouse. Sur tous les matchs de championnat, ils prennent des buts. La chance, c'est que Lille n'est pas forcément la meilleure attaque du championnat. Donc, offensivement, ils sont très bons. Ils vont tomber sur une défense lilloise qui est plutôt bonne, même si je trouve que là, dernièrement, ils font beaucoup tourner Lille défensivement. Depuis le retour de Diakité, on voit beaucoup moins la charnière Yoro-Alexandro, plus au profit de la charnière Yoro-Diakité. Quand il y avait les matchs de coupe, c'est vrai que ça tournait beaucoup. Là, il va encore faire un choix entre Yoro-Diakité. Juste sur le dernier match où il avait mis justement Alexandro et Diakité et il avait fait souffler Yoro. Mais là, je pense que sur ce match de Lyon, ça sera Yoro avec l'un ou l'autre. Donc Lyon a les capacités de le faire. Pourquoi ? Parce que Lyon fait un très bon, une très bonne deuxième partie de saison. Mais ça ne va pas être simple parce que Lille a aussi envie de gagner. Lille a envie de passer sur le podium parce que c'est vrai que d'avoir cette Ligue des Champions directement, ça va quand même apporter un plus. Il y a quand même, tu l'as dit, 3 points entre Monaco et Lille. Donc chaque faux pas sera compté étant donné qu'il reste que 3 matchs. Donc ça sera pas une victoire facile pour Lyon, ça sera pas un match facile, ça sera pas un match facile non plus pour Lille. On devrait voir, je pense, un beau match de football entre ces deux équipes.
Ah mais tu vois, alors je suis d'accord avec toi hein, sur cette belle deuxième partie de saison lyonnaise hein, comme quoi apparemment l'argent fait pas le bonheur. Un peu quand même.
Une petite référence pour le PSG ou pas ça?
Aussi, on peut le dire. On est très heureux. Sachez qu'on est très heureux au PSG. on se mouche avec des billets de 500 tout droit venus du Qatar. mais cette équipe lilloise, quand même, moi, je la trouve très solide. Si tu regardes sur les 8 derniers matchs, Lille à domicile, c'est quand même 6 victoires, 2 nuls, 0 défaite. De manière générale, même à domicile, Lille, si je me trompe pas, c'est une défaite. Ouais, c'est une défaite à domicile contre Reims, donc 2-1. Sinon, c'est quasiment que des victoires. C'est 3 nuls sur toute la saison. Hein. 3 nuls, une défaite et après que des victoires. Et alors, reste 2 matchs encore à domicile contre Nice et Lyon, mais c'est quand même très solide. Et surtout, j'ai l'impression que
c'est
Lille
en ce moment. C'est la deuxième meilleure défense du championnat, hein. C'est pas pour rien.
C'est ça, parce que toi, tu parlais de l'attaque de Lille. Alors, certes, c'est vrai que Lille, c'est pas la meilleure attaque du championnat. On est d'accord. Après, ils affrontent quand même l'une des pires défenses du championnat. Tu le disais aussi, Lyon, aujourd'hui, c'est quand même 51 buts pris. C'est 51 buts pris. En face, Lille, c'est pas la meilleure attaque. Ils ont mis 45. C'est quoi la sixième meilleure attaque? Mais moi, j'aime cette stratégie aussi lyonnaise de se dire, bon, Lilloise, pardon, ok, on met pas forcément beaucoup de buts, mais on va mettre un but de plus que toi. Un peu comme l'a fait Nice en début de saison, ou comme le fait Brest sur un moment plus long. Lille, au final, certes, c'est pas exceptionnel, mais voilà, tu vois, ils gagnent 2-1 contre Metz,
c'est très
1-0 contre Strasbourg, c'est ça. Bon, contre
ça
Marseille,
points, donc, c'est une
exactement, c'est une victoire. Au final, le contrat est rempli, il ramène une victoire. Ils gagnent 1-0 contre Reims. Voilà, c'est des petits scores, ça va pas être des scores fleuves, mais ils font l'essentiel. Donc, c'est là aussi où je me dis que finalement, Lille, ils ont ce petit équilibre que, par exemple, un Monaco n'a pas. Parce que même si Monaco a essayé dans cette fin de saison d'être un peu plus équilibré, on voit qu'ils ont toujours des problèmes défensifs, que c'est toujours foufou, ça va très vite devant, mais derrière, ça ne suit pas. Lille, c'est vraiment un peu le contraire de cette équipe monégasque. Ça marque peut-être pas beaucoup, mais ça prend pas beaucoup de buts. Et à domicile, c'est très solide. C'est là où je...
C'est, vrai que
c'est là où je m'inquiète.
Qu'il y avait peut-être potentiellement une rotation entre Alexandro et Diakité. Mais c'est vrai que c'est une défense. Pour moi, Chevalier dans les buts, c'est un super gardien.
Ouais, génial.
Ils ont une défense entre Thiago Santos, Yoro, Alexandro, Diakité et Ismaili. C'est vraiment très très bon. Franchement, je trouve que l'effectif lillois. C'est vraiment intéressant.
Ouais, et puis si même, parce qu'Ismaili met son premier but la semaine dernière, donc si même les latéraux se mettent à marquer, tu te dis, ça, la fin de saison, là, elle va être très
solide dans cette équipe. Thiago Santos, c'est un latéral très offensif. Hein. C'est vrai que normalement, aussi, Ismaili est plutôt défensif, et Thiago Santos est le penchant à droite, plutôt au profil offensif.
Après, côté lyonnais, voilà, on l'a dit, c'est une belle équipe à réaction et mine de rien, elle a quand même gagné 3 de ses 4 derniers matchs et elle a gagné en battant Nantes, Brest et Monaco. Bon, ils perdent contre le PSG qui était au-dessus, mais voilà, ils battent quand même le 3e du championnat, ils battent le 2e du championnat, c'est pas rien non plus. Après,
c'est pour ça qu'ils sont 2e sur la deuxième partie de saison. Hein,
c'est ça.
Pour battre tout le monde et faire des super prestations.
Après, moi, la petite différence, par contre, que je pourrais voir du côté lyonnais et qu'on a noté à juste titre, hein, parce que il est juste incroyable sur cette saison, Lacazette, je crois que c'est 16 buts en championnat Lacazette. Mais on a vu aussi les autres joueurs un peu se réveiller et peser un peu plus en termes de statistiques. Dans le jeu, c'était mieux, mais c'est vrai que ça manquait un peu au terme de statistiques. Là, on a vu un Benrahma qui a marqué, un Fofana qui va chercher le but de la victoire. Je crois que c'est son premier ou deuxième but de la saison. Est-ce que ça aussi, ce petit réveil, ça peut peut-être... Enfin, tu penses que ça peut faire la différence? Est-ce que tu penses que ça sera suffisant pour déstabiliser cette équipe?
Ça va pas être simple, ça sera pas un match avec beaucoup de buts, je pense, comme le match précédent. Ça va pas être simple de déstabiliser Lille parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très très bien en place. Après, Lyon fait une deuxième partie de saison qui est vraiment très bonne, donc il y aura des occasions. Après, est-ce qu'elles seront concrétisées? C'est pas sûr parce que ouais. C'est vrai qu'il y a quand même, une très bonne défense, tu l'as dit. Mais on devrait avoir un Lyon très entreprenant. Ils vont devoir faire preuve de réalisme parce que, oui, ils auront peut-être des occasions, mais toutes les occasions ne se termineront pas en but comme ça a pu être le cas contre Brest ou dans des matchs où ils ont justement marqué beaucoup de buts. Ça ne sera pas le cas, en tout cas, je pense, face à Lille parce que, comme tu l'as dit, ils ont une très bonne défense.
Après, il y a un point aussi sur lequel je voulais appuyer côté lillois. C'est vrai que pendant un moment, j'ai un peu critiqué Fonseca là-dessus. Et au final, prouver que ça fonctionne, c'était cette rotation qu'il effectue en attaque. Alors, Jonathan David reste quand même l'attaquant. C'est celui qui ne bouge pas. Je crois qu'il... Mis à part les défenseurs, je crois que c'est celui qui a fait le plus de matchs cette saison. Enfin, en tout cas, il loupe aucun match. Soit il est sur le banc, soit il est titulaire. Il a été sur le banc 4 fois. Donc, c'est quand même assez peu sur 31 journées. Sinon, à part ça, il était tout le temps titulaire. On a vu un Zegrova qui a été titulaire pendant très longtemps. Il y a eu, voilà, sur les 3 derniers matchs, il en commence 2 quand même sur le banc. Le dernier, il est titulaire. Et puis au final, cette petite rotation où les joueurs, bah, de temps en temps, vont jouer, d'autres vont être piqués. On l'a vu à Haraldsson qui commence la saison, mais après qui vit une grosse période de creux. Là, il rejoint un peu plus en fin de saison. Cabella, pareil, qui avait bien commencé, creux. Il joue beaucoup moins, là on le revoit en cette fin de saison. Yazici, qui est aussi un bel exemple de ça, qui pour moi, je pensais que voilà, sa saison allait être un long fleuve, un peu tranquille et mort. Au final, le mec va chercher des petits buts en cette fin de saison. Ça aussi, c'est un point quand même qu'il faut saluer auprès de... Enfin, toi, t'en penses quoi de ce petit turnover offensif? Est-ce que sur cette fin de saison, mine de rien, ça aurait pas été mieux d'avoir une plus grosse stabilité offensive et s'appuyer, bah, et faire confiance surtout à une attaque un peu fixe?
Oui, après, c'est vrai que quand t'as une équipe, on arrive quand même à la fin du championnat. La saison a pu être longue pour certains, donc y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas simple de jouer toute une saison titulaire pour des joueurs offensifs qui peuvent faire des fois énormément de courses. Il y a tous les entraînements toute la semaine, donc c'est vrai qu'il faut aussi savoir doser l'effectif. Et s'il y a une période de moins bien pour certains, il faut justement aussi que les autres puissent répondre présent. Donc pour répondre présent, il faut qu'il y ait du temps de jeu et de la qualité. Lille a de la qualité, hein, on le voit, hein, tu l'as dit, il y a des joueurs. Yazici, Cabella, Rolson, il y a quand même des joueurs avec de la qualité devant, donc il y a moyen de faire tourner, et c'est pour ça qu'il se permet de faire tourner, parce qu'il faut que justement dans cette course à la meilleure place possible, il faut que s'il y a un match où il y en a un qui a un coup de moins bien, celui qui rentre doit tout donner, et pour qu'il puisse tout donner et bien remplacer l'autre, il faut qu'il ait aussi, lui, des conditions et qu'il soit en jambes. Donc, le fait d'avoir un peu de turnover, ça va aider aussi les joueurs à les mettre en confiance dans la tête. Et justement, à avoir un groupe qui est soudé parce que tout le monde peut jouer. Et pas une équipe et les autres, bon, bah, ils ne rentrent jamais. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir une équipe à ces types, mais de faire un petit peu de rotation, c'est souvent offensif, cette rotation, parce que c'est vrai que il y a un petit peu de dynamite qui peut arriver du banc de touche en règle générale.
Okay. Au final, à quel type de match on peut s'attendre? Parce que, quelque part, j'ai envie de me dire que ça va être un match ouvert parce que c'est Lyon quand même. Et que défensivement, bah, ils prennent beaucoup de buts, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai qu'offensivement, ils ont aujourd'hui une palette offensive qui leur permet de proposer quelque chose de beaucoup plus varié. Et c'est ça qui est aussi intéressant de leur côté. D'autant plus qu'ils ont aucun absent, côté lyonnais. Après, c'est vrai qu'on a oublié de noter que sans doute que Benjamin André sera absent côté lillois. Et c'est vrai que Benjamin André, c'est quand même un monument du milieu de terrain lillois. C'est quelqu'un qui a ce petit vice, mais aussi qui a cette expérience pour pouvoir voilà aussi contrôler un peu le jeu. En sachant ça. À quel type de match on doit s'attendre? Est-ce que ça va être un match serré avec peu de buts, ou alors on peut quand même s'attendre à un football champagne?
Je pense qu'on va avoir un bon match, mais pas forcément avec beaucoup de buts.
Ouais.
À mon avis, Lyon va essayer d'en mettre. Il y aura des occasions de part et d'autre. Peut-être moins d'occasions pour Lille, mais avec peut-être plus d'occasions, on va dire, tranchantes. Je vois Lyon essayer de mettre la main sur le jeu sans pour autant réussir à faire flancher cette défense lilloise. Donc je pense qu'on devrait voir un match plaisant. C'est vrai que l'absence de Benjamin André va faire mal parce qu'il a l'habitude de vraiment tout bien gérer au milieu de terrain et c'est lui qui permet quand même de récupérer beaucoup de ballons et de pouvoir aller vers l'avant par la suite. Donc ça va un petit peu faire mal aux Lillois, je pense, cette absence. Mais je pense qu'on va voir un match avec du jeu, avec peu d'erreurs techniques, avec pas énormément de buts, mais un match intéressant quand même.
Ok. Et en termes de compo, tu penses que Lyon voilà, va toujours rester sur cette idée de mine de rien, contre Monaco, elle a quand même pris des risques. Puisque contre le PSG, on avait vu qu'il y avait eu un switch à la mi-temps, ce qui était tout à fait compréhensible. À ce moment-là, sinon, ça aurait pu finir avec un score à deux chiffres. Mais contre Monaco, elle a décidé de prendre ce risque quand même. Au final, elle s'en sort bien. Toi, tu vois quel type de compo, que ce soit à côté... Je pense qu'il y a quand même des certitudes côté Lillois, mais côté Lyonnais, tu vois plutôt qui...
Côté Lyonnais, je trouve que la composition qu'il y avait face à Monaco est une composition qui est assez intéressante quand même. Il y a de la qualité offensive avec Muamma, avec Benrahma sur les côtés, Lacazette en pointe. Mais je trouve que le milieu de terrain, il est quand même assez intéressant et assez homogène. Il y a Matic, il y a Kakré, il y a Tolisso. C'est quand même des joueurs qui n'ont pas forcément énormément d'allant offensif. C'est des joueurs qui sont un peu dans le box-to-box pour Kakré et pour Tolisso. Pour Matic, qui est vraiment là pour récupérer des ballons, en l'occurrence, il va falloir en récupérer parce que c'est vrai qu'il y a quand même de la qualité dans le milieu de terrain lillois. Donc, il y aura besoin de ces trois milieux de terrain, je pense, côté lyonnais. Je pense que la défense ne va pas changer. C'est vrai qu'ils sont souvent sur Maitland-Niles, Kalaitachar, O'Brien et Mata. Donc, je vois vraiment la même composition que face à Monaco. Côté lyonnais, je la vois comme ça, avec justement potentiellement l'entrée de Cherki pour ramener un petit peu d'allant si jamais c'est compliqué pour eux d'aller marquer un but.
Ouais, ou même du coup un Fofana qui a réussi à...
Qui a réussi à marquer, ça peut être un Mama Baldé qui, même s'il n'est pas en confiance, peut espérer avoir une entrée en jeu pour espérer marquer.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis côté Lillois, moi je t'avoue que bon, à part cette absence de Benjamin André, là où je te suis, c'est que ça sera Yoro sûr. Après, je vois quand même, enfin, moi je préfère un Yoro Diakité. Alexandro, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce joueur. Pas forcément mauvais, mais voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui est quand même assez lent. Qui a du mal un peu, je trouve, à couvrir cette profondeur. Et avec des attaquants en face comme Muamma, puisqu'en plus, Sandro, il joue axe gauche, je crois, si je ne me trompe pas. Potentiellement, tu aurais un Muamma qui serait de son côté, s'il est titulaire. Ça peut être compliqué. Mais moi, c'est surtout les trois en attaque, ceux derrière David. Ça, je sais pas qui pourrait, je vois pas qui pourrait aligner. Toi, t'as une petite idée de qui pourrait mettre Fonseca?
Alors, défensivement, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'aime bien Alexandro, mais je pense qu'il va faire confiance à une défense Yoro Diakité, Thiago Santos, Ismaili. Après, au milieu de terrain, je verrai les deux mêmes milieux du coup que face à Metz, avec Bentaleb et Gomez. Et offensivement, je verrai Zegrova, je verrai Goodmanson et soit Kabela, soit Yazice en 10. Parce que je ne vois pas mettre les deux, parce que ce sont deux joueurs qui font pas forcément énormément d'efforts défensifs. Yazice et Kabela, et je pense que là il va falloir les faire. Donc c'est pour ça que je vois ou l'un ou l'autre, et avec de l'autre côté Goodmanson et non pas Haraldsson, plutôt Goodmanson, qui a un peu plus un profil défensif, parce qu'il y aura quand même Ezegrova pour animer offensivement, et ou Kabela ou Yazice avec Jonathan David. Et si je dois dire ou l'un ou l'autre, je dirais Kabela replacé en 10, avec Goodmanson sur un côté, Zegrova de l'autre.
Ok, ok, ok. Et tes pronoms ? Enfin, ton pronom ?
Il est compliqué celui-ci, il est très compliqué.
Pas facile, hein.
Il est très compliqué et j'ai envie de te dire un but partout. J'aimerais bien une victoire lilloise, mais...
Ouais, tu m'étonnes.
J'ai peur du un but partout parce que c'est vrai que... J'ai peur du un but partout parce que je pense que Lyon est quand même sur une vraiment, vraiment une bonne série. Et avec tous les assauts qu'ils vont pouvoir lancer, je pense que Lille va en prendre un seul. Mais qu'ils vont en prendre un et que Lille va quand même marquer. Donc je verrai un but partout.
Ouais. Ok. Ok, ok. Ouais, j'hésitais aussi avec le but, le match nul. Ce qui me semblait le plus probable. Après, Lyon est tellement imprévisible sur cette fin de saison que prédire une défaite lyonnaise, c'est très dur. Mais ouais, moi je vais quand même me mouiller. Désolé les Lillois si je vous porte la poisse, mais je pense que Lille va gagner. D'autant plus que là, ils n'ont pas le droit à l'erreur sur cette fin de saison. S'ils veulent choper cette troisième place qualificative pour les tours préliminaires de Ligue des Champions. Non, moi je vois une victoire lilloise 2-1. Que ça m'étonnerait quand même que Lyon ne marque pas. Mais
j'ai hésité lilloise. Avec le 2-1, mais je me dis, est-ce que Lille va avoir les atouts offensifs pour en mettre 2? Alors c'est vrai que Lyon a une défense assez, assez fébrile.
Ouais. J'espère et on n'a pas parlé de David. Hein.
J'espère que tu auras raison sur ce point.
Ah, faut choisir. Hein. Je peux soit avoir raison sur Metz, soit avoir raison sur Lille. Un des deux. Si tu devais choisir.
Ah bah si je devais choisir, mon choix il est très vite fait. Hein. Ouais. T'as raison sur Lille, hein, et t'as faux sur Metz.
Ok. Bah merci à toi. Bon, on va pouvoir faire notre petit tour des stades, un petit tour du stade raccourci, un raccourci de deux matchs. Donc c'est pas plus mal. On va pouvoir en profiter. On va commencer par le premier match, Toulouse en Europe. Toulouse qui affronte.
Vraiment aller en Europe, c'est beau ça quand même.
Mais ils vont créer un truc. Je ne sais pas pourquoi cette équipe toulousaine là. Déjà, c'est une équipe que j'ai bien aimée l'année dernière. C'est une équipe que j'aimais bien cette année, même si j'ai été déçu de leur début de saison. J'ai aimé quand même leur parcours européen parce qu'ils l'ont joué sérieusement. Certes, ils auraient dû battre le Benfica. Mais bon, c'est l'apprentissage, c'est comme ça. Mais je ne sais pas, c'est une équipe dans le jeu que j'apprécie beaucoup. Et j'avoue que Dalinga, c'est un attaquant que je... Voilà, je sais pas, c'est un bel attaquant qui est revenu en forme. Enfin, ouais, petit coup de foudre pour cette équipe toulousaine. Toulouse qui avait perdu au match aller face à Montpellier. Donc, ils avaient perdu 3-0 quand même au match aller face à Montpellier. Toulouse qui a gagné son dernier match contre Lorient 2-1. Toulouse qui est actuellement 10e du championnat, qui a autant de points que le Stade de Reims qui est 11e et 2 points de retard sur Rennes qui a 42 points. De son côté, Montpellier, lui, a fait match nul face à Nantes 1-1. Donc Montpellier qui est 12e avec 38 points. On peut le dire, Montpellier qui est quasiment sauvé de la relégation, puisque Metz a 29 points, ils ont 9 points d'écart, il reste 3 journées, sauf catastrophe. Je vois pas Montpellier finir barragiste.
C'est vraiment une grosse catastrophe. Hein.
C'est ça, faudrait un truc, il faudrait qu'ils prennent 5-0 à chaque match, et encore. Donc Montpellier qui est sauvé, qui est, on va dire, un peu plus relax, même s'il leur faut un petit match nul pour finir le travail. Au niveau des absents, bah, on a Gbo et Kamandi qui sont de retour côté toulousain, et côté montpelliérain, bah, on a Nordin qui est suspendu après son coup karaté tête, enfin pied poitrine pied tête quasiment lors du dernier match. Kazri qui serait absent aussi. Après on a le retour de Saint-Luc, Sako et Delay, et Benjamin Lecomte qui serait blessé. Pronostic pour ce match?
Mais alors, je suis pas sûr qu'on voit un grand match de football entre les deux.
Ah non.
Allez, je dirais 1-0 pour Toulouse. Montpellier n'a pas forcément grand chose à jouer. Comme tu l'as dit, ils sont quasiment maintenus. Je pense que ça sera préparation année prochaine. Plus grand chose à jouer. Toulouse sur une bonne petite dynamique. Qui joue à domicile au Stadium. Donc, je verrai une petite victoire 1-0 de Toulouse.
Ouais, pareil, je te suis. Je voulais dire 2-0 ou 2-1, mais en vrai, ouais, comme on l'a dit, ils n'ont quasiment plus rien à jouer, Montpellier, sauf catastrophe. Et voilà, ça ne va pas arriver. Et je pense qu'ils arriveront quand même à gratter un point sur les dernières journées. Donc, ouais, 1-0 pour Toulouse. Et puis, sinon, Toulouse sont obligés de gagner puisqu'ils vont jouer l'Europe l'année prochaine. Match suivant.
T'as des actions dans le club de Toulouse, t'es recruteur au club de Toulouse, il y a quelque chose avec Toulouse.
Il ne faut pas le dire. J'ai des parts. Mais c'est sûr, là, ils en ont marre là. J'ai plus, je crois que c'est contrôlé par c'est Red Bull qui dit tiens Toulouse là, ou quelque chose
c'est
comme
à vendre,
ça.
Le club est à vendre de Toulouse.
Donc, ouais, bon,
les internautes, si jamais ils ont de l'argent à placer, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus un club de foot. C'est plutôt un placement plaisir, on va dire, mais qui fait perdre de l'argent en règle générale.
Ouais, c'est faut vraiment être passionné hein, pour le faire quand même. Ou être un état.
Petite référence.
Toujours une petite vie comme ça pour rappeler aux auditeurs. On sait jamais au cas où ils auraient des doutes sur mon allégeance. Lens-Lorient, donc ouais, Lens-Lorient qui s'était séparé sur un match nul, 0-0 au match aller. Donc, Lens qui n'est pas en forme hein, sur cette fin de saison très compliquée, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Lens qui s'est incliné face à Marseille 2-1, mais Lens qui est finalement toujours 6e du championnat. C'est ça un peu la surprise avec cette équipe, c'est que tu as l'impression que dans le jeu, c'est pas ouf. Et au final, quand tu regardes le classement, ils sont toujours 6e, ils ont 46 points, donc 2 points d'avance sur Marseille et sur Lyon. Et ils ont 4 points de retard sur Nice, donc je pense que ça aussi, ça va être difficile d'aller les chercher pour Lens en cette fin de saison. Lorient, par contre, c'est une descente aux enfers. Lorient qui sont 17e du championnat, qui ont enchaîné 5 défaites de suite. Donc Lorient, c'est 26 points, 3 points de retard. Sur Metz, c'est un point d'avance sur Clermont, hein. Clermont qui est en plus quasiment déjà enterré. Match très compliqué pour les deux équipes, quoique un peu plus pour Lorient quand même. Toi, t'en penses quoi de ce match? Tu vois quoi comme pronom?
Bah, je pense que ce match, déjà, il va être très important pour les autres matchs du week-end. Ouais. Ça veut dire que si Lorient perde, entre guillemets, ça libère un espoir assez fondamental pour Metz, Le Havre et Nantes. Nantes qui est un cran au-dessus, bien sûr, mais pour Metz et Le Havre qui sont à 3 points, s'ils voient Lorient perdre dès vendredi soir, ça va leur faire un petit ouf de soulagement et de se dire bon, bah voilà, si nous on fait un résultat, il reste 2 matchs, il y a 3 points, à nous de faire le taf. S'ils lancent perd, il y a justement Marseille, Lyon, Rennes qui sont à l'affût derrière et qui peuvent, pour Marseille et Lyon en tout cas, passer devant. Donc il y aura justement cette possibilité là. S'il y a match nul, bah, c'est un peu le même sort, c'est que Marseille va pouvoir se dire je peux passer devant, il y a Lyon qui va pouvoir arriver à égalité de points avec, et pareil dans le bas du classement, Metz et Le Havre vont se dire bon, bah, faut qu'on fasse au minimum comme eux, histoire de garder ces 3 points d'avance avec les 2 matchs qui restent. Donc je pense que ce match va vraiment être décisif sur les autres rencontres du week-end.
Et juste avant que tu donnes ton résultat, juste pour te rappeler et te préciser ça, je ne sais pas si ça peut t'aider dans ton analyse, mais tu as le retour de Gradit Kouzanov et Abdoul Samed pour Lens. Et côté Lorientais, tu as l'absence quand même de Kari, qui était assez titulaire ces derniers temps. Tu as toujours Dieng qui est absent, Bemba Dieng qui est absent. Tu as le retour de Makengo. Mais t'as voilà Boisregard, Innocent qui sont toujours absents et Formos Mendy aussi qui est en protocole commotion. Donc voilà, petite parenthèse.
Bah, c'est vrai que pour moi Lens va devoir se réveiller parce que tu l'as dit, ils sont quand même sur des résultats qui sont pas top. Bon, Lorient aussi a besoin, mais je pense que Lens a quand même plus de qualité. L'absence de Carry à Lorient va faire mal parce que comme tu l'as dit, il est quand même très régulièrement titulaire depuis longtemps. Donc moi je verrais une victoire de Lens 2-0. Encore plus à Lens, très compliqué d'aller jouer là-bas. Donc ils ont besoin justement d'avoir cet oxygène et de pouvoir bien commencer la journée avant de voir les autres pourquoi pas revenir vers eux, mais au moins pour eux arriver à 49 points et se dire on est à 2 points de Nice avant leur match. Donc je verrai une victoire 2-0.
Je suis d'accord avec toi, même si voilà, cette équipe lensoise dans le jeu, c'est pas forcément Pierre Champagne comme on a pu avoir l'année dernière, mais au final, ça reste quand même sixième et Lorient, ils sont en pleine perdition, tu vois, t'as le navire qui coule, quoi. Donc, 2-0, ouais, 2-0, c'est... Ouais, 2-0, allez. Ouais, je te suis, 2-0 aussi pour...
T'as envie de faire les mêmes pronostics que moi jusqu'à la fin ou pas?
Ouais, mais en même temps, genre les matchs qui sont proposés, quoi, voir Lens-Lorient, sérieusement, Lorient gratter un match nul à Bollard avec la série qu'ils font, j'hésitais à dire 1-0 parce que offensivement, Lens, en vrai, c'est pas bon. La prestation de Wai, elle est terrible. Je pense que mentalement, lui, ça va être compliqué pour lui. Allez, tu sais quoi, je dis 1-0 pour Lens. Voilà, comme ça. T'es content? Voilà.
Je suis très content. Mais je pense que ce match-là, tu vois, il va être beau à regarder. Il y aura peut-être des erreurs. Il y aura peut-être, ouais. Peut-être des choses. Mais en fait, il y a tellement d'enjeux dans ce match-là. Que ça va se ressentir sur le terrain et je pense que du coup ça va être sympa à regarder.
Ok. Bon bah à noter. Strasbourg-Le Havre. Donc Strasbourg s'était imposé 2-1 au match aller à domicile face au Havre. Strasbourg qui était sur une bonne série a enchaîné deux défaites de suite, dont la dernière face à Nice à domicile 3-1. De son côté, Strasbourg qui fait une deuxième partie de saison 2024 qui est très compliquée. Qui a enchaîné 6 matchs sans victoire, 4 défaites et 2 nuls, et dont un nul au Parc avec ce but en toute fin de match de Gonzalo Ramos. Le Havre qui est actuellement 15e du championnat avec 29 points, autant de points que Metz qui est 16e, et de son côté Strasbourg qui a 36 points et qui est 13e. Strasbourg qui est aussi quasiment sauvé parce qu'elle a 7 points du premier relégable. Il faut faire un dernier petit effort. C'est un concurrent direct, Strasbourg-Le Havre. Toi, tu vois quoi comme score?
J'étais au Havre tout à l'heure en plus. Et c'est vrai qu'on en discutait un petit peu avec les gens du Havre. Et c'est très compliqué parce que, comme tu l'as dit, Metz est vraiment à égalité de points. Et puis il y a Lorient qui est à 3 points, même si Lorient c'est compliqué pour eux. Mais je pense qu'ils vont quand même tout donner. Ça se joue au Havre, au Stade Océane. Donc, je pense que devant leur public, ils vont avoir envie de faire quelque chose parce que le calendrier qui arrive derrière, c'est quand même aller à Nice et recevoir Marseille. Donc, ça ne va pas être simple. Ils vont se dire il faut gagner contre Toulouse parce que s'ils gagnent contre Toulouse, ils arrivent à 32 points. Et à 32 points, il y a quand même une chance que Lorient ne les rattrape pas. Donc, oui, c'est certes, il y aura la 16e place qui sera possible de jouer les barrages, mais je vois Le Havre faire vraiment le maximum pour gagner ce match face à Strasbourg. Strasbourg, comme tu le disais, quasiment maintenu, il n'y a pas forcément grand-chose à jouer pour eux. Donc, je verrai une victoire du Havre qui ne se jouerait à rien. Je verrais encore un petit 1-0 dans un match où Le Havre a du mal à respirer, mais s'en sort parce qu'il faut gagner, il faut essayer de voir le maintien.
Donc toi, tu vois Le Havre.
Je vois Le Havre 1-0, ouais.
Bon, là, je vais dire le contraire. Moi, je vois Strasbourg finir le travail. Parce que, bon, certes, ils perdent leurs deux derniers matchs, mais ça reste quand même des équipes qui étaient au-dessus. C'était quand même Lille et Nice. Mais au-delà de ça, ils étaient sur une bonne série. Donc, moi, je vois plutôt Strasbourg 1-0 finir le travail et assurer leur maintien en Ligue 1 pour une fin de championnat, pour le maintien en Ligue 1 très, très serré entre Metz et Le Havre.
Ça va être très chaud alors.
Ouais, c'est très très chaud.
Très très chaud. Metz, Le Havre, Lorient, en fonction de ce qu'ils font contre Valence, ça va être très chaud.
Ah, je pense que ça va être incroyable. Ah, sachant que. Attends, je sais.
C'est vrai que Nantes, c'est quand même pas très loin non plus. Ils ont une chance, c'est qu'ils ont déjà 3 points d'avance sur Metz et 6 sur Lorient. Donc, avec 3 matchs. Je ne les vois pas arriver 17e, Nantes, mais ils sont quand même à 3 points du Havre et de Metz. Donc, c'est vrai que cette fin de championnat est très intéressante pour le haut et pour le bas du classement.
Exactement. Je ne sais pas si ça peut changer ton avis, mais j'ai oublié de te dire que Nego et Sangante sont suspendus côté havrais et Diarra est suspendu du côté alsacien. Ça change ton avis ou pas ?
Ça va quand même faire du mal. Ça va quand même faire du mal parce que c'est vrai que on est sur deux joueurs qui sont vraiment titulaires. Ça va faire du mal. Allez, c'est vraiment parce que j'étais au Havre et que j'ai envie de les voir se maintenir que je vais quand même dire victoire 1-0 du Havre.
Ok. Moi, je maintiens Strasbourg 1-0. Monaco-Clermont. Monaco qui s'était imposé 4-2 face à Clermont au match aller. Monaco qui a perdu son dernier match face à Lyon 3-2, alors qu'ils étaient sur une très bonne série de 4 victoires de suite. Monaco qui est toujours deuxième du championnat avec 58 points, 2 points d'avance sur Brest qui en a 56 et 3 sur Lille qui en a 55. De son côté, Clermont est toujours 18e du championnat, mais Clermont a gagné son dernier match face à Reims 4-1. Clermont qui est 18e avec 3 points de retard sur Lorient 17e, 25 points, et Lorient 26 points, 4 points de retard sur Metz, le premier relégable avec 29 points, et sur Le Havre, premier non relégable, 15e avec 29 points. Monaco, Clermont, Maxime, un petit prono.
Comment te dire, Monaco, Clermont... va descendre, je pense. Hein. C'est quand même, ça serait quand même un miracle qu'ils arrivent à ne pas descendre. Monaco va vraiment essayer de maintenir sa deuxième place. J'hésite entre le 2-0 et le 3-0 pour Monaco.
Bah, allez, si tu dis 2-0, je dis 3-0 et vice versa.
Eh ben. Allez, j'ai envie de dire des buts, j'ai envie de dire du spectacle, parce que c'est vrai qu'il en faut dans cette journée aussi. Je vais dire 3-0. Allez. 3-0 pour Monaco.
Ouais, puisque même, tu vois, je regardais un peu les absents des deux côtés. T'as Rachani qui est suspendu, t'as le retour de Singo côté Monégas, t'as Zakaria Golovin et Jacobs qui sont absents, mais même avec ça, 2-0 Monaco. Allez, hop.
Oui, il y a quand même du monde. Offensivement à Monaco, ouais. C'est quand même pas mal.
C'est ça. En plus, Ben Yedder a décidé de marquer. Donc, quand Ben Yedder même se réveille. Alors, voilà.
C'est toujours beau.
Bah, toujours. Toujours, c'est un très beau joueur, Wissem. Dernier match, Brest face à Nantes. Donc, Brest face à Nantes. Un petit derby breton, quand même. Hein. Même si Nantes n'est pas en Bretagne. Mais bon. Brest face à Nantes.
C'est vrai que attention à ce que tu peux dire quand même.
Ouais, non, je j'ai bien compris. Tu m'as tapé sur les doigts assez comme ça, donc j'ai bien compris. Nantes n'est pas en Bretagne. Donc Brest face à Nantes. Brest s'est imposé 2-0 au match aller face à Nantes. Brest qui a gagné son dernier match alors qu'il avait enchaîné deux défaites sur l'un des plus beaux matchs, on peut le dire, de cette saison. Hein, donc qui sont imposés face à Rennes 5-4. Brest qui est actuellement troisième du championnat avec 56 points, donc 3 points de retard sur le deuxième Monaco 58. 2 points pardon de retard sur Monaco 58 et 1 point d'avance sur Lille. Quatrième avec 55 points. De son côté, Nantes est 14e du championnat avec 32 points. Nantes qui a fait match nul lors de son dernier match face à Montpellier, qui est 14e actuellement. Nantes qui a 3 points d'avance sur Le Havre, qui est 15e, le premier non relégable. Et 3 points d'avance aussi sur Metz, qui est le premier relégable, en tout cas le barragiste, avec aussi 29 points. Brest contre Nantes, tu vois quel type de match quel type de résultat?
J'hésite entre le 2-1 pour Brest et le 1 but partout, parce que Nantes a envie de se sauver et va essayer de le faire, parce que Brest a quand même pas mal donné d'énergie face à Rennes et sur ses derniers matchs a quand même mis beaucoup de buts et s'en sont pris beaucoup, ce qui n'est pas leur habitude. Elles sont plutôt normalement avec une très bonne défense et une petite attaque. On a vu sur les derniers matchs, avec la défaite 4-3 et avec la victoire 5-4, qu'ils avaient quand même pris... en soi, ils ont quand même pris 10 buts en 3 matchs. Donc, et puis si on remonte face à Metz, ils en avaient pris 3 aussi. Donc ils en ont quand même pris 13 en 4 matchs. Ce qui fait pas mal. Mais j'ai quand même envie de les voir gagnants. J'ai envie de dire 2-1, parce que je pense qu'ils ont quand même pris pas mal de buts dernièrement et qu'ils vont quand même en prendre un. Et je trouve qu'ils ont quand même des qualités offensives pour aller battre Nantes, donc je dirais 2-1 pour Brest.
Ouais, je vais te suivre, je vais même partir. J'aurais voulu dire 3-1, mais Brest, c'est pas l'équipe qui va forcément te mettre 2-3 buts de plus que l'équipe adverse. Et même si Nantes, ils ont voilà, ce petit Ablin là, qui te fait une fin de saison hyper intéressante et qui marque assez souvent, je pense que Brest va quand même, c'est quand même sérieux cette année. Ils sont quand même. Et puis cette victoire contre Rennes a dû les galvaniser. Et l'effectif est quasi complet. Donc t'as juste le Cardinal qui est suspendu, mais. Ouais, non, je vois cette équipe brestoise gagner, je vais suivre. J'ai même tenté de te dire 1-0. Ouais, 1-0 pour Brest.
Donc tu les vois pas prendre de but cette fois-ci? Ils en ont trop pris
depuis
longtemps.
Ouais, c'est ça, on va se calmer un peu là. Puis cette équipe nantaise, elle a tellement perdu de gens offensivement. Puis même si il te reste un Mostefa, un Ablin qui est pas mal, je vois Brest gagner 1-0 en plus à domicile. Ils vont boucler le travail. Un petit mot pour finir quand même sur Reims, parce que Reims ne joue pas. J'aurais voulu qu'on parle d'eux. On a appris le départ de Will Steele pour les 3 dernières journées du championnat. C'est vrai que ça sentait un peu mauvais quand même récemment. Sur cette deuxième partie de saison, avec ses départs en Angleterre, les mauvais matchs qui ont été réalisés. Alors, est-ce que c'est un départ volontaire? Est-ce que c'est le club qui a décidé de s'en séparer? Parce que je trouve que quand même, sa communication n'a pas été bonne quand il dit qu'il veut un défi en Angleterre, en Championship. Toi, t'as trouvé comment cette fin? Moi, je la trouve moche. Je trouve ça assez laid.
C'est dommage parce que c'est vrai que c'est un coach qu'on a longtemps mis en avant avec sa philosophie de jeu, avec là d'où il vient. C'est un jeune coach, coach étranger qui arrive en France avec quand même pas mal de réussite. Donc c'est vrai que c'est dommage que ça se termine comme ça. Bon, on savait que voilà, à la fin de saison, c'était terminé. J'étais pas dans les bureaux, donc je sais pas ce qui s'est dit, si c'est des deux côtés, hein, une rupture, on va dire, à l'amiable. Mais c'est vrai que oui, Reims n'a plus rien à jouer. Donc entre guillemets, ça va pas forcément changer grand chose. Ils veulent peut-être partir sur le nouveau projet de l'année prochaine, donc essayer de mettre des choses en place dès maintenant, avec l'effectif en place, voir qui ils vont garder et qui ils ne vont pas garder. C'est dommage que ça se termine comme ça, parce que c'est vrai que je pense que le coach était quand même aimé au club et par les supporters, donc c'est dommage. Quand on a des choix dans sa tête, des fois c'est bien de les garder dans sa tête. On sait que dans le football, la partie médiatique a une place très importante. Donc il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et que ça soit les joueurs ou le coach, quand on a des envies de départ ou quand on sait qu'on va partir, il y a des moments pour le dire, il y a des moments où on ne doit pas le dire parce que justement, il faut rester focus sur la saison qui est en cours. Donc c'est dommage. C'est dommage, bravo à lui pour tout le travail qu'il a fait, parce que franchement c'était très plaisant de regarder Reims pendant le moment où il était coach. Donc c'est dommage que ça se termine comme ça, il y aura un nouveau rebondissement, j'imagine qu'il va retrouver un club assez facilement avec ce qu'il a pu faire. Donc voilà, courage à Reims quand même, qui était une belle équipe à regarder, qui a fait cet été un recrutement qui est assez impressionnant pour eux, avec plus de 3 joueurs qui ont coûté plus de 10 millions d'euros. Je tiens à le souligner quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Reims faire un mercato comme ça. Donc espérons pour eux que justement il y ait un coach qui réussisse à les mettre en avant et à avoir justement une stabilité pour ce club.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut pas oublier ce qu'il a fait quand même à Reims, et même dans le championnat français. Il a vraiment apporté un vent de fraîcheur dans ce championnat français qui, pour moi, ronronnait un peu. Et il avait fait partie de cette nouvelle génération de coachs qui ont redonné du peps et du jeu dans le championnat français. Donc, faut pas l'oublier. Moi, je trouve que c'est une erreur de communication qu'il a fait. Il apprend, c'est un jeune coach. C'est vrai que souvent, on critique les jeunes joueurs quand ils font des erreurs de communication, mais ça peut arriver aussi avec les coachs. Lui, c'est un très jeune coach, je crois qu'il a à peine une trentaine d'années, même pas. Il apprend aussi. J'espère quand même que ça va bien se passer pour lui. Je trouve assez moche sa fin avec Reims, mais bon. En même temps, je comprends le club. Je trouve qu'il y a des trucs qu'il a dit qu'il n'aurait jamais dû dire. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas Reims pourra capitaliser sur ce qu'ils ont fait et quand même garder une structure, une structure soudée, une structure saine pour repartir sur un nouveau bon projet comme ça. Mais ça fait plaisir qu'ils aient donné la chance à un jeune coach.
C'est un club solide, Reims, donc c'est vrai que je pense que ça va rester structuré et que voilà, il y a qu'il fasse un bon choix justement pour un nouveau coach. Après, oui, c'est vrai que c'est dommage. Comme tu le dis, une erreur de communication, malheureusement, ça arrive. Il y a des choses qui sont compliquées, ça doit mal passer auprès des supporters rémois. Voilà, nouvelle aventure et pour le club et pour lui à l'avenir. Donc voilà, espérons que ça se passe bien. Pour tout le monde, c'est dommage. Mais bon, félicitations à Reims et au club pour ce qu'ils ont pu faire, en tout cas, dernièrement.
Exactement. Maxime, je te remercie de m'avoir accompagné pour cette 32e journée. J'espère qu'on sera autant gâtés que la 31e journée, même s'il y a 2 matchs de moins, mais j'espère qu'on aura des buts et du spectacle. Ça serait beau, ça serait très très beau. Dans tous les cas, merci à vous les auditeurs de continuer à nous suivre, à nous écouter tout au long de cette saison. C'est vrai que peut-être que je ne vous le dis pas assez, mais merci quand même de nous suivre et nous écouter, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas encore une fois à réagir, continuez vos téléchargements, les petits likes, ça nous aide pour le référencement. À nous liker aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit X, anciennement Twitter ou encore Instagram, et même sur les plateformes d'écoute, que ce soit Deezer, Apple Music ou encore Spotify. Et je vous souhaite un très bon week-end de foot dans le meilleur championnat forcément d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.